Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il travaille dans le bureau de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU à Genève. Marcus Hoffer participe à la promotion, notamment au Conseil des droits humains de l'ONU, de l'objectif de développement durable numéro 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives. En deux mots, l'état de droit et la justice pour tous. À 27 ans, ce passionné d'audiovisuel est notre invité aujourd'hui. Madame, monsieur, bienvenue. Marcus Hoffer, merci d'être venu dans le studio de Radio Air aujourd'hui. Bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, vous avez 27 ans, vous êtes encore aux études. Après un bachelor en relations internationales, vous terminez actuellement un master en journalisme et communication digitale à l'Université de Genève. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez aux objectifs de développement durable ?
Alors, pour moi, ces objectifs, ils font sens étant donné mon parcours de vie et de foi. Venant d'une famille très engagée à l'Armée du Salut, j'ai toujours été sensible aux questions de justice sociale, de combat contre la misère et pour faire reculer la souffrance humaine dans le monde. Et puis il y a aussi tout ce panel d'enjeux environnementaux aussi qui sont très importants parce qu'ils impactent aussi l'humain. Et je suis convaincu que les objectifs du développement durable sont clairement compatibles avec la Bible et ce que Dieu veut et désire pour l'humanité et pour le reste de sa création.
Alors, ce qui est important de mettre en avant, c'est que depuis février de cette année, depuis février 2022, vous travaillez comme chargé de communication et de sensibilisation au bureau de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, auprès des Nations Unies, et qu'en 2020, vous avez effectué dans ce cadre-là déjà un stage de 10 mois à mi-temps. Alors, pour parler des objectifs de développement durable, et notamment de cet objectif, cet ODD numéro 16, vous nous emmenez aujourd'hui dans un pays très éloigné de la Suisse, le Pakistan.
Oui, tout à fait. Au Pakistan, il y a de nombreux cas d'enlèvement de filles mineures de familles très modestes appartenant à des minorités religieuses qui sont tout en bas en fait, de l'échelle sociale.
Donc là, pour parler concrètement, c'est la question des mariages forcés.
C'est ça, exactement. Ces filles, en fait, elles sont kidnappées, converties à l'islam, qui est la religion dominante au Pakistan.
Donc ce sont souvent des jeunes filles qui sont d'arrière-plan chrétien, voire même hindou.
Chrétien, voire hindou, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de filles provenant de familles catholiques, mais aussi hindoues et de manière générale au Pakistan, de toutes les minorités religieuses dans ce pays.
L'âge de ces filles ?
Alors, ça peut aller jusqu'à 12-13 ans pour les plus jeunes. Après, il y a beaucoup de cas où c'est des filles entre 15, 16, 17 ans, où là, il devient plus difficile de prouver qu'elles ne sont pas encore majeures.
Et qu'est-ce que vous faites pour empêcher le mariage forcé de ces adolescentes, de ces jeunes filles ?
Alors, nous avons fait notamment du plaidoyer auprès du Conseil des droits de l'homme en 2020 pour plusieurs cas précis de ces filles chrétiennes enlevées.
Alors, expliquez-nous un peu, parce que si on n'est pas du tout initié à la dynamique du Conseil des droits humains aux Nations Unies, on n'a pas du tout une idée concrète de la manière dont ça se passe. Donc, quand vous dites plaidoyer, ça consiste en quoi ?
Alors, ça consiste en faire des déclarations orales qui sont entendues par les États qui sont représentés au Conseil des droits de l'homme.
Donc là, il faut imaginer un grand cénacle, une sorte de parlement. Et puis, en tant qu'ONG, vous avez la possibilité de vous exprimer lorsque la manière dont les droits de l'homme sont observés par un État sont mis en question.
Oui, tout à fait. Donc, ils entendent ce que chaque État a à dire sur une situation donnée. Et aussi, après, viennent toutes les ONG, en fait, donner aussi leur état de la situation des droits humains dans le pays concerné ou sur un sujet.
Donc là, c'est une sorte de plainte que vous rédigez et puis qui est adressée à l'ambassadeur du Pakistan à l'ONU, qui est là pour entendre un peu la manière dont ces mariages forcés se déroulent au Pakistan.
Tout à fait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait une déclaration conjointe avec deux autres organisations chrétiennes, le Conseil œcuménique des Églises et Christian Solidarity Worldwide, où nous avons justement demandé au gouvernement pakistanais de rendre justice en fait aux filles des familles chrétiennes qui ont été lésées. Et
de manière toute concrète, là, il y a un travail de dossier. Vous avez dû collecter toute une série d'informations, les vérifier, et puis vous vous adressez donc à l'ambassadeur du Pakistan. Il y a un point, semble-t-il, qui est assez difficile lorsqu'on prépare un dossier à négocier, c'est la question de l'état civil qui n'est pas souvent connu. La date de naissance de ces adolescentes est parfois très incertaine.
C'est ça. C'est un des gros problèmes, en fait. Il est vraiment difficile de faire reconnaître l'âge de ces filles auprès des autorités pakistanaises parce que les instances juridiques, elles refusent, en fait, même de reconnaître les certificats de naissance et d'autres documents officiels qui confirment l'âge de ces filles. Ce qui fait que les tribunaux ils donnent raison aux kidnappeurs plutôt qu'aux familles et ça empêche donc les familles de retrouver leur enfant.
Et comment est-ce que ça s'est passé lorsque vos trois ONG ont plaidé contre ces mariages forcés? Comment est-ce que l'ambassadeur du Pakistan, comment est-ce que cet État a réagi par rapport à votre plaidoyer?
Alors, on n'a pas forcément de réaction directe de la part de l'État. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'in fine, on sait que certaines filles pour lesquelles nous avons plaidé ont pu retrouver leur famille quelques mois plus tard.
Et là, vous avez pu suivre la trajectoire de certaines de ces jeunes filles.
Voilà, parce que c'est aussi des cas en fait, qui ont été très médiatisés à l'époque, notamment par des médias chrétiens. Et je pense qu'à force d'avoir fait pression sur les autorités pakistanaises, les familles ont fini par être entendues, je pense, par les autorités.
Donc j'imagine que quand vous apprenez que l'une de ces jeunes filles a été libérée, c'est pour vous une grande satisfaction. Vous avez quelque part rempli votre mission.
Alors tout à fait, c'est des belles victoires. On rend grâce à Dieu pour ça, mais malheureusement, il y a toujours en fait des filles mineures qui sont enlevées encore
donc,
aujourd'hui.
Donc finalement, ça perdure et la situation n'a pas changé.
Le problème, c'est qu'il y a des vrais dysfonctionnements structurels, systémiques, qui font que les autorités juridiques ne parviennent pas à rendre justice à de nombreuses familles, en fait.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'une de ces jeunes filles, l'une de ces jeunes femmes qui auraient été libérées?
Malheureusement pas, non.
Donc vous n'avez pas finalement la joie de rencontrer quelqu'un en chair et en os qui aurait bénéficié de votre plaidoyer?
C'est ça, non. On est vraiment à distance et puis les retours qu'on a, c'est à travers la presse d'une part, mais aussi des avocats qui étaient sur place et qui défendaient ces familles-là. Donc c'est grâce à ces avocats qu'on a pu obtenir toutes les informations nécessaires pour faire une analyse juridique, pour établir les faits et pouvoir avoir accès aussi à tout ce qui est documents officiels, procès-verbaux des tribunaux pakistanais.
Est-ce que vous vous rappelez du nom ou du visage d'une de ces jeunes femmes qui, à la suite de votre plaidoyer, aurait connu la libération ou aurait connu la possibilité de retrouver sa propre famille?
Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc d'une fille en particulier. Mais
alors, ce qui est important de rappeler, Marcus Hoffer, c'est que voilà, dans le cadre de ce travail de chargé de communication et de sensibilisation que vous effectuez dans le cadre de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, c'est que vous vous êtes occupé du Pakistan, mais vous vous impliquez aussi passablement par rapport à la situation qui prévaut en République centrafricaine. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là?
Alors, le cas de la RCA, donc la République centrafricaine, c'est un bon exemple en fait pour nous de dialogue et de collaboration interreligieuse pour la paix. L'Alliance évangélique centrafricaine, qui est membre de l'Alliance évangélique mondiale, a été une organisation initiatrice vraiment d'une plateforme des confessions en Centrafrique pour la paix.
Ou des religions, il y a à la fois un représentant catholique et aussi un imam,
un musulman, tout à fait.
De la communauté musulmane.
Voilà, c'est vraiment évangélique, catholique, musulman. Et nous, ici à Genève, ce qu'on a fait avec Caritas International, une ONG catholique, c'est d'appuyer cette plateforme interreligieuse pour la paix en renforçant la voix de cette plateforme. Et
oui, parce que ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'en République centrafricaine, prévaut encore actuellement une véritable guerre civile.
Voilà, tout à fait, une guerre civile qui est catastrophique sur le plan humain, avec des crimes de guerre, avec de la corruption et aussi des problèmes de radicalisation de la population.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie l'Alliance évangélique centrafricaine, qui est l'initiatrice d'une plateforme des confessions religieuses en Centrafrique. Du coup, c'est un travail de consolidation de la paix, de lutte contre la radicalisation de la population.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les motifs religieux sont intégrés comme étant quelque part des raisons de faire la guerre.
Tout à fait, oui. Après, il y a d'autres facteurs dans ce pays-là. Ce n'est pas la raison principale, on va dire, le côté religieux, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, la corruption, la misère aussi au niveau socio-économique. Donc, la religion peut participer à une forme de radicalisation, mais ce n'est pas la raison principale.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme a reçu un prix.
Tout à fait, elle a reçu plusieurs prix et ça leur a permis de recevoir des financements assez importants et ça leur a permis de renforcer leur impact et leur travail de consolidation de la paix.
Et là, vous y avez été pour quelque chose.
Tout à fait. Du coup, nous, avec une ONG chrétienne, Caritas International, on s'est efforcé d'appuyer cette plateforme pour la paix et aussi faire des discours au Conseil des droits de l'homme, soumettre un rapport aussi sur la situation des droits humains en République centrafricaine. Et on a aussi organisé des événements où on a aussi fait venir un imam de membre de cette plateforme pour venir faire un discours au Conseil des droits de l'homme. Donc on a aussi des retours positifs par rapport à notre travail, notamment de la part de l'expert indépendant des Nations Unies pour la situation des droits humains en RCA, qui a vraiment dit que ça lui donnait beaucoup d'espoir de voir les informations que nous fournissions, qui étaient de sources fiables, le fait qu'on collabore avec les populations locales. On est très content d'avoir eu ces retours encourageants.
Donc Marcus Feher, aujourd'hui on parle avec vous d'objectifs de développement durable et de manière plus spécifique de cette ODD numéro 16, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en vue d'un développement durable. S'il fallait mettre en parallèle, mettre en lien cet objectif de développement durable numéro 16 avec votre foi chrétienne, comment est-ce que la foi appuie un tel objectif?
Alors, je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à suivre le Christ, à ressembler toujours plus à Jésus. Et c'est justement Jésus qu'on appelle le prince de la paix dans le livre d'Ésaïe. Et c'est lui aussi qui nous donne en fait la paix, une paix qui n'est pas donnée comme celle que le monde nous donne, comme c'est dans l'évangile de Jean, il me semble. Et c'est Jésus aussi qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés.
Donc là, c'est à la fois une paix intérieure que le Christ donne, mais qu'il nous invite aussi à inscrire dans des réalités sociales concrètes et parfois très, très difficiles de nos pays.
Tout à fait. Je pense que c'est à travers cet amour que nous sommes appelés aussi, du coup, à être des artisans de paix, en fait.
Yeah.
Vous écoutez un Air d'Actu sur Radio Air. Nous parlons aujourd'hui avec Marcus Hoffer, chargé de communication et de sensibilisation au bureau de l'Alliance évangélique mondiale auprès des Nations unies à Genève, de l'objectif de développement durable numéro 16, promouvoir l'état de droit et la société civile. Marcus Hoffer, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive à vous engager dans le cadre de ce bureau de l'Alliance évangélique mondiale à Genève ?
Alors moi je me souviens quand j'étais petit et que je cherchais un métier original et mon père me proposait « et si un jour tu devenais ambassadeur ?» Alors le mot ambassadeur m'est resté dans la tête durant toute ma jeunesse et avec mes études en relations internationales, je me suis dit « pourquoi pas devenir un jour une sorte d'ambassadeur pour la paix ?»
Et là, de manière concrète, finalement, vous êtes une sorte d'ambassadeur des évangéliques et de la liberté religieuse auprès de l'ONU à Genève.
Voilà, moi j'aime dire que je suis à mon échelle, à mon niveau, une sorte d'ambassadeur pour Christ, pour faire avancer la paix et pour un monde plus juste.
Alors, vous êtes aussi un passionné de vidéos. Est-ce que vous allez utiliser vos compétences de vidéaste pour jouer plus pleinement encore ce rôle d'ambassadeur?
Tout à fait. Donc là, je suis en train de produire une vidéo promotionnelle sur notre travail auprès des Nations Unies à Genève. Et de manière générale, la stratégie est à l'avenir de mieux faire connaître notre travail, de mieux communiquer sur ce que nous faisons et donner plus de visibilité à notre travail en plaidoyer pour les droits humains.
Est-ce que vous envisagez d'utiliser vos talents de vidéaste, de caméraman pour quelque part donner encore davantage de poids à certains dossiers? On pourrait penser par exemple à la situation de ces jeunes filles au Pakistan qui sont contraintes au mariage avec des gens qui ne sont pas de la même confession ou de la même religion qu'elles. Est-ce que finalement vous iriez sur le terrain faire des portraits et puis réaliser un film qui quelque part sera un peu un témoignage coup de poing contre ces mariages forcés?
Ce serait en tout cas une excellente idée. C'est pas prévu pour le moment, mais je pense que ça me tiendrait à cœur un jour de pouvoir justement voyager peut-être dans ces pays-là et de pouvoir récolter des témoignages sur le terrain, et parce que l'audiovisuel, ça a clairement un impact qui est très, très puissant, de pouvoir mettre des visages sur ces personnes qui sont à l'autre bout du monde et qui souffrent. Donc, si un jour nous avons les moyens de le faire,
vous le feriez volontiers.
Bien volontiers, oui.
Alors, il y a une chose qui vous a frappé lorsque vous avez fait ce stage de 10 mois dans ce bureau de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, puis depuis février où vous travaillez là-bas, c'est le poids des mots. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là.
Je suis encore en phase d'apprentissage, mais il est vrai que dans un contexte tel que les Nations Unies, où nous dialoguons avec des États, il faut faire particulièrement attention au langage et au vocabulaire que nous utilisons. D'une part...
Donc on n'ose pas aller de manière frontale dénoncer quelque chose dans un État, mais il faut un peu utiliser du vocabulaire et un langage diplomatique.
Voilà, c'est ça. Il faut savoir être diplomatique. On peut tout de même être ferme, savoir être ferme lorsqu'il le faut, mais il faut toujours faire attention, il faut rester dans un dialogue qui soit constructif, d'une part parce qu'il y a des codes à respecter dans le monde de la diplomatie, mais aussi parce que nous ne voulons pas que la situation des personnes que nous défendons s'empire dans leur pays.
Et ça, vous y parvenez facilement ou bien finalement, vu la liberté de ton qu'on peut avoir en Suisse, c'est parfois difficile pour vous de ne pas dénoncer de manière frontale certaines choses qui vous choquent?
C'est ça, il faut essayer de ne pas être trop, on va dire, émotionnel. Il faut parfois vraiment se retenir et rester diplomatique. Je pense que c'est le bon mot.
Marcus Hoffer, merci d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 16 qui vise d'ici 2030, hein, rappelons-le, à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. Je rappelle que vous êtes chargé de communication et de sensibilisation auprès du Bureau de l'Alliance évangélique mondiale à l'ONU à Genève. Alors, si certaines personnes étaient intéressées par votre travail et souhaitaient un peu découvrir ce que vous faites, vous avez un site internet ?
Tout à fait. Donc, vous pouvez aller sur www.un.worlda.org.
Et là, c'est vous qui vous occupez de ce site internet et qui, en français, gérez la communication ?
Alors, la plupart du contenu est en anglais, malheureusement, mais oui, c'est moi qui gère ça.
Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch. Vous pouvez là commander la brochure God's Global Goals. Madame, monsieur, merci de votre intérêt, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.